RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le journal, suivi le commentaire et l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons également présenter la rubrique Mon Indonésie. La rubrique suivante est le magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, nous présenterons des musiques indonésiennes. Les auditeurs, voilà le programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal et le commentaire.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. L'Indonésie et CIAMEO discutent de sept domaines prioritaires. Le ministre français du numérique raconte le président directeur général de Gojek. ONFPA encourage les pays à partager des solutions pour résoudre les problèmes de population. L'Indonésie est le centre mondial du bois. Wiranto souhaite que la communauté internationale forme une cyberconvention. Le ministère indonésien des Affaires étrangères veut renforcer la coopération de patrouille trilatérale. Et enfin, la République tchèque veut développer des relations commerciales avec l'Indonésie. Voici le journal complet. Le ministère indonésien de l'Éducation et de la Culture, en collaboration avec le secrétariat de l'Organisation des ministères de l'Éducation de l'Asie du Sud-Est, CIAMEO, ont organisé le séminaire international à Kuta, Bali, mercredi. Le ministre indonésien de l'Éducation et de la Culture, en tant que président du conseil de CIAMEO, Muhajir Effendi, a expliqué: dans ce séminaire d'une journée, les participants discutent du programme d'éducation CIAMEO ou sept domaines prioritaires pour 2015-2035. Cité par l'Agence de nouvelles de la Radio Nationale, les sept domaines prioritaires sont la promotion de l'éducation universelle pour la petite enfance, de surmonter les obstacles à l'inclusion, la promotion de la résilience face aux situations d'urgence, la promotion de l'éducation, de formation technique et professionnelle, la revitalisation de la formation des enseignants, l'harmonisation de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que l'adoption du programme du 20e siècle. Le ministre Muhajir a souligné que l'objectif de la discussion de cette priorité est d'échanger des informations sur l'éducation dans chaque pays, puis de partager leurs expériences pour faire face aux problèmes envisagés. CIAMEO est une organisation intergouvernementale internationale et régionale dont les membres sont le Brunei Darussalam, le Cambodge, l'Indonésie, la République démocratique populaire du Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande, Timor-Leste et le Vietnam. En plus d'accorder de développer les codes de codage gratuits, l'Académie, et de discuter avec un certain nombre de jeunes à Jakarta dans le cadre des efforts visant à construire un écosystème économique numérique en Indonésie, le ministre français de l'économie numérique, Munir Mahjoubi, a eu l'occasion de rencontrer le président directeur général de l'entreprise de transport en ligne, Gojek, Nadiem Makarim. Il a dit à la Voix d'Indonésie à Jakarta récemment qu'il était très intéressé à ce que Gojek a fait. Selon lui, Gojek est l'une des start-up de classe mondiale qui a prouvé l'impact positif de la technologie sur la vie humaine, en particulier en Indonésie. Mahzubi a expliqué ce qui était développé par Gojek non seulement parce qu'il a eu un impact positif, c'est-à-dire le conducteur comme partenaire. Gojek a également eu un impact positif sur les activités quotidiennes des personnes. En outre, Gojek joue également un rôle important dans la réduction du nombre de véhicules privés et des embouteillages sur la route. Cependant, Mahjoubi a également déclaré que le gouvernement indonésien avait besoin d'une réglementation appropriée pour que le développement technologique comme Gojek n'entraîne pas d'impact négatif et ne nuise pas à d'autres parties en Indonésie. Bjorn Anderson, directeur général régional de l'Asie et du Pacifique du Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA, a encouragé les pays membres de la coopération triangulaire Sud-Sud, ou KSST, à partager leurs expériences et leurs solutions pour résoudre les problèmes de population. Cela a été dit par Anderson lors de la conférence internationale interministérielle de KSST à Kuta Bali mardi. Il a ajouté que tous les pays pourraient bénéficier de programmes gérés par d'autres pays et ce concept de collaboration pourrait être appliqué en dehors des questions de population pour progresser le développement. Il espère que les représentants qui participeront à la conférence internationale ministérielle de KSST partageront l'expérience de leur pays pour atteindre les objectifs de développement durable en 2030. Le succès d'Indonésie au premier rang dans la plus grande collection de bois au monde, au Silarium, fait l'Indonésie le centre mondial du bois. Dwi Sudarto, directeur du Centre de recherche et de développement forestier du ministère de l'Environnement et des Forêts, a déclaré mardi à Bogor que le succès d'Indonésie a été classé au premier rang mondial dans la plus grande collection de bois grâce à la coopération de toutes les parties qui ont soutenu la politique du ministre de l'Environnement et des Forêts de collecter la collection de bois indonésienne. Jusqu'en janvier 2018, l'Indonésie était toujours classée 4e avec une collection de 67 864 spécimens après les Pays-Bas avec 125 000 spécimens, les États-Unis avec 105 000 spécimens et la Belgique 69 000 spécimens. Mais à partir de la deuxième semaine de septembre, 183 000 spécimens ont été collectés. Ce nombre continue de croître, actuellement 185 647 spécimens. Celui-ci sera lancé par le président Joko Widodo à Yogyakarta le 23 septembre. Le ministre coordinateur de la politique du droit et de la sécurité, Wiranto, a souhaité que la communauté internationale puisse faire un consensus pour créer des conventions ou l'accord international sur le cybermanagement pour qu'il devienne un droit international. Cela a été déclaré par Wiranto dans son discours à la troisième édition de la Semaine internationale de la cybersécurité à Singapour, mardi. Selon lui, lors du dernier sommet de l'ASEAN à Singapour, les dirigeants de l'ASEAN s'étaient engagés à explorer la faisabilité de la coordination de la politique de cybersécurité, de la diplomatie, de la coopération et des efforts de développement des capacités et techniques. Selon le ministre Wiranto, la transformation mondiale par l'innovation numérique se déroule très rapidement avec des conséquences considérables. Par conséquent, ce n'est pas une coïncidence si le rapport risque global du Forum économique mondial WEF en 2018 a inséré la menace à la sécurité cybernétique sous la forme de violations comme l'un des quatre domaines principaux qui provoquent la dégradation de l'environnement, les tensions économiques et géopolitiques. Par conséquent, l'Indonésie doit travailler ensemble pour surmonter ces défis par le mécanisme bilatéral, régional et multilatéral. Le directeur général de la protection des citoyens indonésiens et des entités juridiques indonésies du ministère indonésien des Affaires étrangères, Lalu Muhammad Iqbal, a déclaré que La coopération de patrouille trilatérale entre l'Indonésie, la Malaisie et les Philippines devait être réexaminée en raison de l'enlèvement des deux membres d'équipage des navires de pêche indonésiens par des groupes armés dans les eaux de Samporna, Sabah en Malaisie le 11 septembre. Il a déclaré aux journalistes au ministère des Affaires étrangères, Jakarta, mercredi, qu'il y avait quelque chose de mal avec la coopération de patrouille trilatérale qui se déroulait depuis plus d'un an. Parce que depuis la coopération, il n'y avait plus l'enlèvement dans les eaux de Sabah ou autour de la mer de Sulu. Par conséquent, il souhaite la révision et le renforcement de la coopération.
2016. Presiden Jokowi menginisiasi di Jogja pertemuan Jogja trilateral.
En 2016, le président Jokowi a initié la réunion trilatérale de Yogyakarta où le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense et le commandant des forces armées des trois pays ont été invités par le président Jokowi pour rencontrer. À partir de cette réunion, il s'est développé par la suite en une coopération trilatérale appelée patrouille conjointe coordonnée, c'est-à-dire la sécurité qui est appliquée de manière coordonnée dans trois régions, à savoir le territoire de l'Indonésie, le territoire des Philippines et le territoire de la Malaisie qui est adjacent à la mer de Sulu. Et si nous le voyons, la procédure opératoire standardisée au POS était effective vers janvier 2017 et depuis lors, il n'y a aucun otage jusqu'au 11 septembre. Donc, quelque chose a mal tourné avec cette bonne coopération. À l'avenir, l'orientation est de renforcer la coopération existante. Selon Lalu Muhammad Iqbal, les deux membres d'équipage de pêche indonésien qui ont été enlevés étaient Syamsul Saguni et Ousmane Yunus. Les mesures provisoires prises par le gouvernement indonésien concernant l'enlèvement et le consulat général indonésien à Tawau a lancé un appel aux citoyens indonésiens travaillant dans le secteur de la pêche, en particulier dans les eaux de Sabah et de Sulu, pour qu'ils ne partent pas en mer pendant un certain temps. L'appel sera révoqué si la situation sécuritaire est considérée comme favorable par les autorités de sécurité locale. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a communiqué avec son homologue malaisien de demander la garantie de sécurité pour le citoyen qui a travaillé dans les eaux de Sabah. L'ambassadeur de l'Indonésie aux Philippines, Sinyo Harisarun Dajang, auparavant a rencontré le président philippin Rodrigo Duterte pour discuter de la coopération de patrouille trilatérale entre l'Indonésie, la Malaisie et les Philippines qui sera augmentée à l'opération conjointe trilatérale. Le président du Sénat de la République tchèque, Milan Štěch, et son entourage, composé de 5 sénateurs et de 18 hommes d'affaires tchèques, ont effectué une visite de travail en Indonésie du 16 au 20 septembre pour discuter de plusieurs réunions, dont une réunion avec le président de la République d'Indonésie, Joko Widodo, au palais présidentiel à Jakarta. Milan Štěch a expliqué à La Voix d'Indonésie à Jakarta récemment que le but principal de sa visite à Jakarta était de réaliser les bonnes relations entre l'Indonésie et la République tchèque et de promouvoir ces relations, y compris dans le domaine des affaires. Le principal objectif de ma visite est de suivre les bonnes relations entre l'Indonésie et la République tchèque et de promouvoir davantage cette relation. Parce que nous avons les bonnes relations dans le domaine des affaires et nous voulons intensifier les relations commerciales communes afin de continuer ce qui a commencé dans le passé. Selon Milan Štěch, sa visite en Indonésie avec la délégation vise à renforcer les relations et également améliorer les opportunités d'affaires et d'investissement en Indonésie, notamment dans le domaine des infrastructures, de l'énergie et l'éducation. En outre, pour renforcer les relations avec le Parlement, car il a le même caractère. La République tchèque adhère également au système à deux chambres, comme la Chambre des représentants du peuple ou de PR et le Conseil des représentants régionaux de PD en Indonésie. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie, sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Serge Tard, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire ayant pour le titre « La coopération indo-tchèque ». Lorsque la situation de l'économie mondiale est fluctuante et que les conditions économiques nationales sont frappées également par des tests sévères des effets de la situation mondiale, le gouvernement indonésien a besoin de coopération et de l'établissement de la coopération dans tous les domaines avec les pays étrangers. De plus, le taux de change de rupiah a tendance à s'affaiblir, même s'il n'est pas aussi grave que la crise de 1997. Pour cette raison, l'augmentation des investissements et des exportations est une forme d'activité susceptible de stimuler l'économie nationale. En ce qui concerne l'amélioration de l'économie nationale, le gouvernement indonésien et la République tchèque ont commencé une collaboration par le biais des investissements et des exportations. Cela a été révélé dans un discours prononcé par le président Joko Widodo lors d'une visite de la délégation tchèque au Palais d'État lundi le 17 septembre. Le président Joko Widodo lors de la réunion a déclaré son engagement à continuer à faire progresser la coopération avec la République tchèque dans divers domaines, en particulier dans le commerce et l'industrie. En outre, le président Joko Widodo a demandé à la République tchèque de soutenir les produits indonésiens à base d'huile de palme sur le marché européen. Tandis que le président de la délégation de la République tchèque, Milan Steh, a déclaré que la République tchèque offrait au gouvernement indonésien des possibilités de coopération et d'investissement dans l'industrie manufacturière, la santé et l'éducation. Pendant ce temps, le ministre de l'Industrie, Airlangga Hartarto, a demandé l'aide du gouvernement tchèque comme l'un des États membres de l'Union européenne pour aider à accélérer la négociation de l'accord de partenariat économique global CEPA avec l'Union européenne comme l'a fait l'Indonésie avec l'Australie. Selon le ministre Airlangga Hartarto, il y a plusieurs produits manufacturés indonésiens pour pénétrer le marché tchèque, notamment les textiles et les vêtements, les meubles à base de bois et les pâtes et papier. En outre, le retrait des investissements et la coopération dans les secteurs de caoutchouc, des produits pharmaceutiques et des mini-technologies des énergies renouvelables sont étudiés. En effet, ce que le gouvernement tchèque offre au gouvernement indonésien est un bon potentiel pour améliorer les performances de l'économie nationale qui tente à stagner. L'intérêt de la République tchèque pour une coopération plus sérieuse est une réponse positive à la visite de la délégation indonésienne en mai 2018. Les opportunités commerciales pour accroître les exportations grâce à la coopération bilatérale sont l'une des solutions les plus puissantes, même si la rédaction d'un protocole d'entente prend du temps. En outre, des incitations spéciales de l'Indonésie sont nécessaires pour les investisseurs pour faire progresser l'industrie nationale. Au moins, ce qui est offert aux deux pays pour faire progresser leur performance économique est une bonne chose au milieu d'une économie mondiale incertaine. L'espoir est bien sûr que cette offre de coopération sera immédiatement suivie par le gouvernement afin de stimuler l'affaiblissement de l'économie nationale, en particulier des résultats à l'exportation. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Bonsoir tous les auditeurs, n'importe où que vous soyez. On se rencontre encore dans l'émission de l'histoire d'aujourd'hui de RRI World Service, la voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Le 20 septembre 1946, le festival de Cannes s'est tenu pour la première fois. Le festival de Cannes s'est tenu pour la première fois le 20 septembre 1946 à la ville balnéaire de Cannes, en France. Puis, ce festival a lieu tous les mois de mai, sauf pour certaines années. Le festival de Cannes est également un lieu où les entrepreneurs du cinéma peuvent lancer leur dernier film ou vendre leur travail à distributeurs de films du monde entier. Le prix le plus prestigieux décerné à Cannes est la Palme d'Or pour le meilleur film. Le 20 septembre 1979, un coup d'État en République centrafricaine a renversé le président David Deco. La République centrafricaine est un pays situé à l'intérieur de l'Afrique qui borde le Tchad, le Soudan, la République démocratique du Congo, la République du Congo et le Cameroun. Par le passé, ce pays était une colonie française dont le nom était Oubangui-Chari, qui est devenu indépendant en 1960. Le 20 septembre 1979, avec le soutien de la France, David Deco a lancé un coup d'État sans effusion de sang et renversé le président Bokassa. Mais les efforts de Deco pour restaurer l'économie du pays ont échoué. Le 20 septembre 1981, un coup d'État sans effusion de sang mené par le général André Kolingba a renversé David Deco. Kolingba a immédiatement remplacé la constitution par la loi militaire. Et Kolingba a dirigé pendant 4 ans l'Afrique centrale avec un gouvernement militaire. Le 20 septembre 2004, première élection directe du président et du vice-président de la République d'Indonésie. Depuis 2004, l'Indonésie dispose d'un nouveau mécanisme lors des élections présidentielles. Avant, le président était choisi par les votes des représentants du peuple au Conseil représentatif du peuple et à l'Assemblée consultative du peuple. En 2004, le président et le vice-président de la République d'Indonésie étaient élus par vote direct du peuple. Cela signifie que tous les Indonésiens ont le droit de voter directement pour le président. Lors de la première élection présidentielle directe, Susilo Bambang Yudhoyono et Yusuf Kalla ont remporté la période 2004-2009. Ils ont passé deux tours d'élection. Lors du second tour, qui a eu lieu le 20 septembre, ils ont reçu le plus de votes. Les auditeurs, c'est l'histoire d'aujourd'hui. Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie. Au revoir.
Indonésiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Modernésie, intitulée L'Agence pour l'évaluation et l'application de la technologie, ou BPPT, développe un système d'évaluation du danger d'incendie de tours. L'Agence pour l'évaluation et l'application de la technologie, ou BPPT, développe un système d'évaluation des risques d'incendie de tours pour soutenir la surveillance des risques d'incendie des forêts et de terre. Le chef de BPPT, M. Unggul Prianto, en marge d'un séminaire national du Centre de la technologie pour le développement de ressources régionales, qui a eu lieu dans le bâtiment de BPPT Jakarta mardi, a déclaré que le système d'évaluation du danger d'incendie, ou SPBK, est maintenant appliqué en Indonésie. Mais ce système fait encore référence au système ou algorithme d'autres pays qui sont dans les régions subtropicales et basé sur les données météorologiques, de sorte que tous les paramètres en conformité avec le territoire indonésien. Il a dit que cette application avait été réalisée conjointement avec le ministère de l'Environnement et des Forêts, l'Agence de Météorologie, de Climatologie et de Géophysique, ou BMKG, y compris l'Institut National de l'Aviation et de l'Espace, ou LAPAN. Selon M. Unggul Prianto, en plus de composants météo, le système d'évaluation des risques d'incendie est lié à la composante d'activité humaine, le carburant, qui comprennent entre autres la distribution et l'épaisseur de la tourbe et la distribution de l'eau de tourbe et des sources d'eau pour surmonter la sécheresse de la tourbe. Le dernier est un composant de perte subie dans la rupia en raison des incendies de tourbière. La comptabilité des ressources naturelles est nécessaire pour modéliser et obtenir la valeur de la perte, à la fois la valeur des pertes potentielles en cas d'incendie sur une utilisation particulière de terre, comme déclaré M. Unggul Prianto. Selon lui, les recherches et les études sur la tourbière ont été effectuées par BPPT depuis longtemps. BPPT veut contribuer à accélérer la gestion des tourbières qui soit économiquement bénéfique, tout en maintenant une bonne gouvernance environnementale et en prévenant des incendies. Les résultats ont été mis en œuvre sous la forme de politiques de gestion des tourbières, de planification spatiale régionale et de gouvernance de l'utilisation des tourbières. Selon Unggul Prianto, jusqu'à présent, les incendies se produisent souvent sur les tourbières. Par conséquent, BPPT coopère avec diverses agences telles que KLHK et le secteur privé qui essaie de surveiller afin que la tourbe soit toujours humide afin de ne pas brûler facilement. La mise en œuvre du système comprend l'installation d'équipements de surveillance dans les zones exposées aux incendies de forêt et de terre. Le directeur du Centre technologique de développement des ressources régionales de BPPT, M. Yudi Anantasena, espère qu'à la fin de cette année, il y aura les paramètres et à la fin de 2019, les données seront complétées et le système sera soumis à l'Agence de météorologie, climatologie et géophysique. Ce système est fait pour surveiller les zones sujettes au feu de tourbe et garantir l'existence de points en chute parce que jusqu'à présent, les pompiers utilisent toujours des points d'accès qui n'est pas encore de points en chute comme guide. Pour cela, il veut assurer les points en chute de plusieurs paramètres. Yudi Anantasena a ajouté que le système d'évaluation des risques d'incendie de tourbières serait prioritaire dans les zones exposées au feu de tourbe dans le sud de Sumatra, Jambi, Riau, Kalimantan Central et Kalimantan Occidental. Chers amis, c'était Modernisie de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec le Magazine Culturel et cette fois nous allons vous présenter la place de Parai Tenggiri qui se trouve aux îles de Bangka Belitung. La place de Parai Tenggiri est un site touristique situé dans le sous-district Sungai Liat en région de Bangka aux îles de Bangka Belitung. Précisément situé dans le village de Sinar Baru, à 40 km de l'aéroport de Pati Amir à Bangka et environ 30 km au nord de la ville de Pangkal Pinang. Cette place possède un contour de terre en pente avec des vagues relativement petites. Cette place est le pilier des îles de Bangka Belitung. Les vagues sur cette place sont relativement petites et les visiteurs peuvent y nager tranquillement. Les visiteurs peuvent également faire d'autres activités comme la pêche et la plongée en apnée. Si vous êtes curieux de la beauté des fonds marins, vous pouvez également plonger pour profiter des habitants sous-marins. Pour ceux d'entre vous qui aiment faire de la plongée en apnée mais n'apportent pas l'équipement, il y a des locations de matériel de plongée en apnée et de plongée avec des bateaux et des guides. Sur cette plage, vous pouvez également pratiquer des sports nautiques tels que le jet ski, parachute ascensionnel et le bateau banane qui peuvent stimuler votre adrénaline. Comme les autres plages, cette plage possède également une étendue de sable blanc, mais ce qui distingue et ajoute l'exotisme de la plage de Parai Tenggiri est les eaux marines qui sont vert tosca. Les roses disséminées le long de la côte avec des formes et des tailles variées contribuent également à la beauté de cette plage. Vous pouvez également profiter de cette plage en vous essayant sur les rochers tout en capturant des beaux moments pour votre famille. Pour arriver à la place de Parai Tenggiri, vous pouvez commencer votre voyage depuis l'aéroport de Pati Amir à Bangka en louant une voiture d'un montant de 250 000 rupiah. En outre, vous pouvez également utiliser le transport public tel que le transport urbain de Pangkal Pinang à Sungai Liat. En arrivant à Sungai Liat, vous pouvez continuer votre voyage en utilisant un becak motorisé mieux connu sous le nom de Bentor vers la place de Parai Tenggiri. Pour entrer dans cette place, vous devez payer le billet d'entrée de 50 000 rupiah par personne. Si vous voulez passer la nuit sur cette place, vous pouvez rester dans des hôtels autour de la plage. Chers amis, c'était le magazine culturel intitulé La place de Parai Tenggiri à Bangka Belitung. Merci à tous et à bientôt.
La voix de l'Indonésie depuis Jakarta dans la rubrique Bahasaku comme le média pour préserver la diversité des langues régionales en Indonésie.
La voix de l'Indonésie à Jakarta dans le programme Langue Comédia de préserver la diversité des langues locales en Indonésie. Chers amis, nous nous rencontrons de nouveau dans le programme Langue et ce soir, nous vous introduisons l'une des langues qui existe en Provence-Sulawesi du Sud-Est, la langue Moronene. Moronene ou Moronene est une langue parlée par la communauté vivant dans la région Bombana, l'île Kabanea, en Provence-Sulawesi du Sud-Est. La langue Moronene est utilisée et développée principalement par la tribu Moronene. Cette tribu, qui est comprise dans le Proto-Malayan ou Vieux-Malaise, vit dans la région Bombana à Sulawesi du Sud-Est depuis des centaines d'années. Mais vers le 18e siècle, l'existence de la tribu Moronene a été déplacée par la tribu Tolaki, qui qui est venu à Sulawesi du Sud-Est. Le mot Moronene vient de deux mots, Moro qui signifie similaire et Nene qui signifie l'arbre ressemble. Alors, Moronene signifie similaire ou identique à l'arbre ressemble. Des arbres de ressam sont beaucoup trouvés sur l'île Cabanea où vit la tribu Moronene. La langue Moronene a trois dialectes, à savoir le dialecte Wumbubanka, le dialecte Lora et le dialecte Rahantari. Chaque dialecte de la langue Moronene est parlé dans certains villages qui sont les noms de ces dialectes. Le dialecte Wumbubanka est parlé dans le village Wumbubanka, le dialecte Lora dans le village Lora et le dialecte Rahantari dans le village Rahantari. Selon une étude dialectométrique réalisée par l'Agence de développement linguistique du ministère de l'Éducation et de la Culture, le niveau de différence entre les trois dialectes de la langue Moronene est de 51 à 63%. Cependant, le pourcentage de la différence de la langue Moronene avec d'autres langues dans la province Sulawesi du Sud-Est est atteint 81 à 90%. Le site web du catalogue de langues internationales classe la langue Moronene comme menacée. Diverses études menées par des académiciens dans plusieurs universités indonésiennes indiquent également que la langue Moronene est menacée d'extinction dans 15 à 25 ans à venir. En outre, la littérature orale Moronene comme Kada ou la poésie héroïque Ohohi ou la poésie de bienvenue, Tumburi O, ou les contes de fées, et Ka Oliwi, ou Manda Ancestraux, est également menacée d'extinction. Bien sûr, les nobles valeurs et l'histoire de la tribu Moronene contenues dans la littérature orale vont également disparaître. Malgré cela, l'utilisation de la langue Moronene est encore forte dans les villages à l'île Cabanea. Bien que la langue Bugis et la langue indonésienne soient également utilisées dans le village, le Moronene de presque tous les groupes d'âge peuvent utiliser activement la langue Moronene. De plus, les églises à l'île Cabanea fournissent également des services en langue Moronene. Les auditeurs, voici les exemples de mots dans la langue Moronene. Meanta, meanta, en français, après-midi. Malo, malo, en français, la nuit. Monka, monka, en français, manger. Mondo ou, en français, boire. Mebaho, mebaho, en français, prendre une douche. Les auditeurs, n'oubliez pas d'envoyer vos critiques et suggestions par courrier électronique à voi@voinews.id. Ou à notre Facebook The Voice of Indonesia. C'était le programme Ma Langue, aujourd'hui, comédie de préserver la diversité des langues locales en Indonésie.
La voix de l'Indonésie depuis Jakarta dans la rubrique Bahasaku comme le média pour préserver la diversité des langues régionales en Indonésie.
Pelangi Nada, le magazine musical vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Chers amis de quatre coins du monde, bonsoir et comment allez-vous? Nous espérons que vous soyez en bonne santé. Vous écoutez notre programme musical de la Voix d'Indonésie. Dans cette édition, nous allons vous présenter une chanteuse connue indonésienne, Christine Natalina Panjaitan, ou plus connue avec le surnom Christine Panjaitan. Vous vous souvenez d'une chanson intitulée « Dites-moi honnêtement » ? Pour ceux d'entre vous qui se souviennent encore, bien sûr, vous reconnaissez encore la chanteuse qui l'a popularisée. Christine Panjaitan n'est pas un nom étranger dans l'industrie de la musique indonésienne. Son nom était populaire à travers une chanson intitulée « Dites-moi honnêtement » qui est chantée ou popularisée par les autres chanteurs jusqu'à présent. Bon, serviteur, voici la chanson intitulée « Dites-moi honnêtement » chantée par Christine Panjaitan. Bonne écoute.
Katakanlah, katakan sejujurnya.
Serviteur, c'était la chanson de Christine Panjaitan intitulée « Dis-moi honnêtement ». Il y a longtemps que son beau visage n'est pas visible dans la télévision, si bien que les gens pensent qu'elle l'a retiré dans l'industrie de la musique en Indonésie. Mais Christine l'a refusé. Elle a admis qu'elle chante encore activement dans divers programmes, soit off-air ou on-air. Aux années 1980, Christine Panjaitan était devenue l'une des chanteuses pop mélancoliques plus célèbres en Indonésie. Bon, chers auditrices et chers auditeurs, voici la deuxième chanson de Christine intitulée « Je l'ai oublié ». Bonne écoute. Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson Christine Panjaitan intitulée « Je l'ai audit ». Chers amis, le dernier album de Christine Panjaitan, publié en 1988, intitulé « Je t'aime ». Bien que cet album était moins succès au marché, mais il paraît la présence de Christine était encore sentie par ses fans. Christine est en train d'attendre actuellement un producteur qui veut lui faire un album pour qu'elle puisse traiter le manque de ses fans. Bonsoir amis, avant de terminer notre programme, voici donc les deux dernières chansons de Christine Panjaitan intitulées « Pour Mama » et « Vous, lui et moi ». Bonne écoute et à bientôt.
Sisiku, seluruh
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes sur 925 kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Écoutez tous les jours nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4 et 5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook, The Voice of Indonesia et Twitter, @voindonesia ou bien Instagram, voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.